est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Une crise internationale va-t-elle s'ouvrir à cause de Cuba? Aujourd'hui, l'Union soviétique a réagi deux fois. Double avertissement qui vise spécialement Washington et qui est donné d'abord sous la forme d'une déclaration du gouvernement soviétique. Cessez d'intervenir à Cuba, sinon votre vue paisible pourrait être compromise. Le second avertissement, c'est M. Khrouchtchev qui l'adresse directement au président Kennedy.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le temps paraissait lointain, récemment encore, où les habitants des États-Unis avaient en grand nombre creusé près de leur maison des abris personnels dans l'espoir d'une survie en cas de conflit atomique. C'était il y a plus d'un demi-siècle. Au cœur de la guerre froide, l'angoisse devant cette apocalypse était omniprésente, en particulier outre-Atlantique. Mais il se trouve que depuis la fin de l'affrontement des deux blocs après la chute du mur de Berlin, cette obsession s'était doucement effacée malgré la dissémination des armements nucléaires dans divers pays, l'inquiétude se concentrant sur les accidents des centrales civiles de Tchernobyl à Fukushima. Or, voici que les menaces agitées par Vladimir Poutine ressuscitent le risque d'une utilisation de l'arme atomique dans le cadre de la guerre d'Ukraine. Et du même coup, on est porté à revenir à la crise dite des fusées qui, depuis Cuba, mit la Terre en octobre 1962, tout près d'un cataclysme. Ce qu'on a appris depuis lors, grâce à l'ouverture de diverses archives, a fait mieux mesurer encore qu'il s'est agi alors, selon une formule consacrée, d'une diplomatie du bord du gouffre. Comme d'ordinaire, le rapprochement avec aujourd'hui éclairera non seulement des rebonds, mais une différence fondamentale. Entre le jeu d'échecs de deux adversaires mondiaux et l'invasion d'un pays par un autre, dont les déboires le conduiraient à monter d'un cran dans l'échelle de ses armes. Mon invité, Maurice Weiss, professeur émérite à Sciences Po, n'est pas seulement l'un de nos meilleurs spécialistes de l'histoire des relations internationales au XXe et au XXIe siècle, il montre constamment le souci de mettre à jour les concepts qui les gouvernent et les réflexions qui les éclairent. Par quoi sa présence s'imposait ici. Et pour commencer, pour retrouver l'ambiance de la crise dont nous allons parler, écoutons cet extrait du journal parlé de Michel Honorin qui évoque la crise qui se prépare à Cuba dans un grand brouillard, dans une grande incertitude, avec une inquiétude dominante, presque une angoisse. Et vous entendrez ensuite la correspondance depuis Washington du journaliste Michel Texier. On est dans Interactualité, le 22 octobre 1962, au cœur de la crise dont nous allons parler.
Le président Kennedy a fait téléphoner à tous les journaux leur demandant de garder une place à la une des éditions de demain pour une grande nouvelle. Des choses très graves se préparent aux États-Unis. De plus, à minuit, heure de Paris, M. Kennedy parlera sur toutes les longueurs d'onde des radios et des télévisions américaines. Il l'a décidé il y a quelques dizaines de minutes. Simultanément, M. Gromyko décidait de ne pas rentrer à Moscou et d'attendre. À l'heure où nous sommes montés en studio, tous les grands chefs militaires américains étaient réunis au Pentagone et Dean Rusk, lui, n'a pas quitté la Maison-Blanche. Les représentants des deux grands partis américains sont eux aussi venus à la Maison-Blanche. Par ailleurs, vous le savez certainement, puisque nous en parlons depuis dimanche, 20 000 marines à bord de 40 navires de guerre manœuvrent dans les eaux des Caraïbes. Ce qui nous amène à la première question, est-ce de Cuba dont il s'agit? Michel Texier, avez-vous pu savoir quelque chose?
J'arrive de la Maison Blanche où l'affluence des journalistes et l'atmosphère électrisée qui y régnait annonçaient l'heure des décisions graves. Notre curiosité n'a pas été satisfaite, c'est même peu dire, elle a été multipliée quand le porte-parole du président nous a annoncé que M. Kennedy s'adresserait par l'intermédiaire de la télévision ce soir à ses compatriotes pour, je cite, l'un des cas d'urgence nationale les plus graves. Cette allocution exceptionnelle sera prononcée à 7h heure américaine, soit soit minuit en France. Auparavant, dans une heure exactement, le président réunira le Conseil national de sécurité, dans 2 heures le cabinet et dans 2h30 tous les leaders parlementaires de la majorité comme de la minorité. Ce matin, le président Kennedy avait conféré avec le secrétaire à la Défense, M. McNamara, avec le secrétaire d'État, M. Dean Rusk, et aussi avec 2 conseillers aux affaires allemandes. Le porte-parole, Pierre Salinger, se refusait à répondre à toute question sur Cuba ou Berlin. À chacune de nos tentatives, pas de commentaire. Alors, on se demandait il y a quelques instants, en sortant de la Maison Blanche, où avait éclaté cette urgence des plus graves pour la nation américaine. La majorité des journalistes optaient pour Cuba, sans que l'on sache les raisons précises d'une telle mobilisation de tout l'appareil politique et militaire de la capitale américaine.
Maurice Weiss, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
Je rappelle que Gromyko était le ministre soviétique des Affaires étrangères, l'homologue de l'américain Dean Rusk. Mm-hmm. On est là vraiment dans un climat de grande incertitude.
Oui. Ce qui me frappe le plus en écoutant ces journalistes, c'est que le secret a été bien gardé. Et cependant, depuis plus d'une semaine, les plus hautes autorités américaines sont en train de phosphorer pour savoir ce qu'ils doivent faire. Et par conséquent, un peu partout, et depuis 1962, certainement, il y aurait eu des fuites et on aurait su ce qui s'était passé. Mais là, aux États-Unis et dans le monde, on n'apprend pas que ce qui intervient et qui fait que Kennedy va prononcer un discours très important. Lui-même, le président Kennedy, a prévenu d'ailleurs personnellement les plus importants journalistes américains, et par conséquent, c'est une façon comme une autre d'une concertation privée pour que le secret soit bien gardé.
Alsop, Lippmann et d'autres.
Voilà, exactement. Et l'autre chose que je voudrais dire en commençant tout de même, c'est que quand cette crise arrive, il ne faut surtout pas la sortir du contexte. D'abord, le contexte de la guerre froide. On est en pleine guerre froide. Quand maintenant on parle de guerre froide nouvelle, renouvelée, les gens feraient bien de retourner aux années 60 et voir comment ça se passait. C'était pas du tout la même chose.
C'est un anachronisme.
Vraiment. Exactement. Et par conséquent, c'était le plein moment de la guerre froide et les crises de la guerre froide. Et en particulier de la crise de Berlin. Il faut parler de la crise de Berlin qui existe depuis 1945, mais en fait qui a été relancée par Khrouchtchev, le secrétaire général du PC soviétique, en novembre 1958, et qui se poursuit encore en 1962 après l'érection du mur de Berlin en août 1961.
Il faut en effet restituer les fondements de cette situation. Comment on en est arrivé là à la suite des affrontements des années 50 ?
Oui, il y a un affrontement général, global, entre les États-Unis et l'Union soviétique, entre deux blocs dont ils sont les leaders, et la crise de Berlin, puis la crise de Cuba, vont illustrer extraordinairement cette opposition qui est en passe de devenir une opposition menant au cataclysme nucléaire.
On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur l'évolution des techniques. C'est Kennedy, qui est donc élu président des États-Unis en 1960, qui emploie le premier, semble-t-il, l'expression « missile gap », le fossé dans le domaine des missiles.
Oui, il faut d'une part, en effet, parler des questions techniques, des questions scientifiques, des questions stratégiques, mais surtout ne pas oublier que derrière ces questions, il y a aussi des questions de représentation, des questions de bluff, de propagande. Oui, à la fin des années 50, il y a un grand saut sur le plan stratégique, c'est les fusées intercontinentales. Et évidemment, c'est le lancement de Spoutnik en octobre 57.
Puis Gagarine.
Puis Gagarine.
Le premier homme dans l'espace.
Voilà, qui montre que les soviétiques ont fait des progrès extraordinaires et se développent aux États-Unis l'idée qu'il y a en effet un fossé entre ce que les soviétiques ont fait et ce que les Américains ont fait. Évidemment, derrière tout cela, encore une fois, se cache une opposition politique, de politique intérieure, parce que Kennedy est démocrate, Eisenhower républicain, et son successeur désigné est Nixon, et par conséquent, Kennedy, en jouant la carte du missile Gap, veut montrer que les républicains n'ont pas fait leur travail et n'ont pas suffisamment armé les États-Unis. Et par conséquent, on est en effet en plein débat stratégique entre les Américains et les Soviétiques, un débat qui est loin d'être aussi simple que Kennedy voulait le dire.
C'est aussi le moment où il faut faire un sort à la personnalité. En histoire, les individus comptent au moins autant que les forces profondes. À la personnalité de Kennedy, donc ce jeune président élu en 1960, à la fin de 1960, et Khrushchev, qui est le chef de l'URSS.
Oui, ce qui est très important, c'est de bien voir qu'entre les deux hommes, il y a d'abord un fossé idéologique, évidemment, mais il y a aussi un fossé générationnel. Kennedy est un jeune président. Il a 43 ans, 45 ans au moment de la crise des fusées, alors que tous ceux qui sont autour de lui, les autres dirigeants, sont des hommes qui ont au minimum 60 ans, sinon 70 ans. Et par conséquent, il faut prendre en considération ce point.
Ils se sont vus, les deux cas, comme on dit à l'époque, Kennedy et Khrushchev.
Oui.
Et le courant n'est pas bien passé, ils se sont vus à Vienne.
Ils se sont rencontrés à Vienne, ça ne s'est pas bien passé. Et d'une certaine façon, on dit que Khrushchev a dominé la confrontation parce qu'il a montré combien Kennedy n'était pas tout à fait au courant de toutes les situations, en particulier au point de vue de Berlin. Et par conséquent, on se rend compte à ce moment-là que du côté américain, on a élu un président qui n'a pas toute l'expérience voulue. Et c'est évidemment un des points essentiels de la crise des fusées de Cuba, où on va voir se révéler John Fitzgerald Kennedy.
Lui-même dit qu'il lui faut démontrer sa crédibilité auprès du maître du Kremlin. Mais il faut montrer aussi pourquoi cette île de Cuba qui est devenue le champ clos de cet affrontement.
D'abord, Cuba est situé à 150 à 180 km des côtes de Floride. Et par conséquent, c'est vraiment une proximité extraordinaire. Et d'autre part, que depuis presque un siècle à ce moment-là, les Américains dominent l'île de Cuba.
98, ils l'ont libéré, entre guillemets, ils l'ont libéré de l'emprise espagnole.
Exactement. Et les entreprises américaines, en particulier celles qui commercialisent le sucre, la banane, etc., dominent l'économie cubaine. Sur Cuba règne un dictateur dans les années 50, qui est Batista, contre lequel se soulèvent des barbudos, comme on dit, des barbus, des gens qui ne sont pas spécialement marxistes, mais qui veulent en finir avec la dictature de Batista. À leur tête, Fidel Castro.
Les Américains ont longtemps protégé Batista, mais finalement ils l'ont laissé à son sort, ce qui témoigne du fait qu'ils n'ont pas perçu peut-être au début Castro comme marxiste. D'ailleurs, il ne l'était pas, comme vous le dites.
Il ne l'était pas. Il y avait autour de lui des hommes comme Che Guevara, comme Raúl Castro, qu'il était
son frère
davantage. Lui ne l'était pas. Et c'est l'évolution de la situation entre 1960 et 1962 qui va faire de Fidel Castro un adversaire irréconciliable des Américains.
Écoutons cette archive qui témoigne de l'enthousiasme populaire à Cuba, à La Havane, lorsque les barbudos, derrière Fidel Castro, arrivent après leur victoire. Ils s'étaient appuyés sur la Sierra Maestra après divers échecs. Et c'est à la fin de 1958 que Batista est obligé de partir et laisse la place aux triomphateurs.
Naturellement, la foule est immense. Le décor est absolument extraordinaire, magnifique. Un grand soleil sur la mer et tous les buildings de la nouvelle Havane qui se dresse sur ce ciel bleu et toute cette foule immense autour de moi. Castro avance, Castro arrive, et devant lui, naturellement, il y a toute une masse d'hommes, il y a tous ces barbus, mais il y a aussi dans ce cortège beaucoup de femmes, des femmes qui ont participé à la lutte dans le maquis qui était dans la Sierra Maestra. Beaucoup sont tout à fait extraordinaires, elles portent un arsenal, elles ont généralement un gros pistolet, et je vois d'ici le premier char. Il y a une femme qui est entièrement habillée aux couleurs de Cuba, en bleu, en blanc et en rouge. Vous savez que le drapeau de Cuba est composé. Vous entendez? Voilà, il approche, il est là, vous les entendez crier. Ils crient tous, vive Fidel, vive Fidel. Ça a fait une immense rumeur, et Fidel est là, qui sourit. Écoutez-les, ils sont véritablement déchaînés, c'est du délire.
Voilà l'ambiance et voilà la popularité de Castro avec laquelle les Américains devront avoir à s'accommoder.
Oui, et ils ne veulent pas s'en accommoder, précisément. Il va y avoir les anticastristes, des exilés qui ne supportent pas la nouvelle autorité de Fidel Castro.
Du côté de Miami, en Floride.
Qui vont de l'autre côté de la mer, en Floride, et qui, évidemment, préparent un retour sur la terre cubaine en étant protégés, aidés, soutenus par les Américains. Les Américains qui, bien entendu, avec la CIA, font ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que la nouvelle autorité de Castro soit mise à terre. Et c'est ce qui va se passer en effet. Il y a ce débarquement des exilés anticastristes dans la baie des Cochons en avril 1961, un débarquement qui avait été préparé sous la présidence d'Eisenhower.
Très mal préparé.
Mais qui est exécuté du temps de Kennedy et qui est un désastre. Puisque l'enthousiasme de la foule qu'on a entendu il y a un instant fait que lorsque les exilés anticastristes débarquent sur le sol cubain, ils ne sont pas reçus comme les gens de la CIA le croyaient par un enthousiasme délirant, mais au contraire, ils sont rejetés. Et par conséquent, cela est une très mauvaise nouvelle pour, d'une part, les exilés anticastristes, mais surtout pour Kennedy, qui supporte la responsabilité d'une action à laquelle il n'était que associé parce qu'il devait évidemment suivre les idées de l'administration Eisenhower.
Mais cette perte de crédit, dont il n'était en effet pas vraiment responsable, va peser, en tout cas au début de la crise, sur ses comportements.
Oui, sans aucun doute, à partir de ce moment-là, l'idée fixe des Américains, de Kennedy, de son frère Robert, et qui est ministre de la Justice, de la CIA, de toutes les autorités américaines, c'est il faut se débarrasser de Fidel Castro. Et tout à fait naturellement, les gens de la CIA préparent des plans, comme le plan Mongoose, qui est destiné à faire en sorte que Fidel Castro soit mis par terre et que les exilés anticastristes puissent reprendre le pouvoir. C'est une opération qui est lancé par la CIA, mais il n'y a pas que cela. Il y a la préparation par les armées américaines de toute une série d'actions qui consistent en particulier à ce qui va être le choix fait par Kennedy au moment de la crise, c'est-à-dire le choix du blocus, ou plus exactement, de la quarantaine.
Choix de la quarantaine ou du blocus qui va s'opposer à l'idée d'une invasion ou d'un éventuel bombardement. De quoi ? Eh bien, des missiles soviétiques dont les avions de renseignement américains découvrent la présence tout à coup sur le sol cubain.
Oui, il y avait évidemment un survol par des avions espions U-2 du territoire cubain. Et au bout d'un certain temps, la CIA, qui était à l'origine du survol du territoire cubain par ces U-2, décide de ne plus faire voler ces avions. Parce que d'une part, c'est dangereux, d'autre part, ils se rendent compte qu'il n'y a pas suffisamment de raisons de le faire. Et par conséquent, pendant tout un temps, au cours de l'année 62, il n'y a plus de survol du territoire cubain, et par conséquent, les Américains perdent le contact avec ce qui est la réalité,
c'est-à-dire
l'arrivée à partir du début de l'été 1962, d'un nombre considérable de matériel et de soldats soviétiques, parce que Khrouchtchev, en avril 1962, a trouvé bonne l'idée de mettre un hérisson dans le pantalon de l'oncle Sam. C'est-à-dire la volonté...
La formule est de vous, ou bien vous l'avez retrouvée ailleurs?
Non, la formule n'est pas du tout de moi, elle est de Khrouchtchev. Dans ses mémoires, il dit exactement cela. Par conséquent, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que c'est l'initiative de Khrouchtchev.
Le hérisson contre la mangouste, en somme.
Voilà, exactement. Et par conséquent, la décision qui est prise quasiment seule par Khrouchtchev consiste à aider les Cubains contre une éventuelle nouvelle invasion par les Américains, c'est-à-dire les sauver. Mais Khrouchtchev va aller plus loin que la simple sauvegarde du régime cubain, puisque les Américains ont eu la mauvaise idée de placer des fusées à portée intermédiaire avec des charges nucléaires dans certains pays de l'OTAN comme la Grande-Bretagne, l'Italie et la Turquie, et en particulier la Turquie qui est limitrophe de l'Union soviétique, les soviétiques se disent « mais après tout, pourquoi est-ce que nous ne ferions pas la même chose dans l'étranger proche, comme on dirait aujourd'hui, des États-Unis » Et c'est ce qui va se passer. Les soviétiques font un effort considérable sur le plan de transport de matériel, de fusées, d'avions, même de sous-marins de l'Union soviétique jusqu'à Cuba, et tout ça se fait de façon très curieuse, sans que les Américains en aient vraiment conscience. On voit bien qu'il y a un renforcement des liens entre Cuba et l'Union soviétique.
Oui, Guevara, le compagnon de Fidel Castro, a dit à un moment donné que Cuba entrait dans l'ère de l'amitié soviétique.
Voilà, exactement. Mais les Américains ne s'en rendent pas suffisamment compte. Or, ce qui se passe est extrêmement intéressant. Le patron de la CIA, Alan Dulles, qui était inamovible, est limogé à la suite de l'échec de la baie des cochons.
Et son successeur part en voyage de noces à ce moment-là.
Oui, mais son successeur est un homme absolument extraordinaire, John McCone, c'est un homme qui, comme très souvent aux États-Unis, a eu toute une série de fonctions, à la fois dans le privé, dans le public, etc. Et dans le privé, il a été en particulier armateur. Et lorsqu'il part, en effet, comme vous le dites, en voyage de noces dans le sud de la France, à Juan-les-Pins, enfin, sur la Côte d'Azur...
Entre la bizarre de certaines temporalités.
Il garde le contact de façon très précise avec tout ce qu'on lui envoie comme information et il dit, mais non, ce n'est pas possible qu'il y ait tellement de transports d'Union soviétique jusqu'à Cuba. Beaucoup de ces bateaux arrivent à Cuba, il y a quelque chose qui se passe, il faut reprendre les vols d'avions U-2. Et c'est ce qui se passe. Le 14 octobre 1962, un vol d'avions U-2 arrive au-dessus de Cuba et il repère des sites de lancement de missiles.
Mais alors, du coup, c'est un coup de théâtre.
C'est un coup de théâtre, mais qui est plus compliqué à interpréter qu'on ne le pense, parce que après tout, les Cubains ou les Soviétiques ont le droit de créer des sites de missiles et d'avoir des missiles pour se protéger contre les bombardiers américains. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que au même moment, les Américains ont la chance d'avoir l'information par un espion, ou plus exactement par un agent du KGB qui est passé à l'Ouest, Oleg Penkovsky, et qui leur apporte toute une série d'informations précises sur ce que sont les sites de missiles, et en particulier des sites de missiles armés de têtes nucléaires.
Il y a aussi un employé de l'ambassade de France qui, se promenant par hasard, voit arriver des navires bizarres.
Absolument. Les Américains, évidemment, à partir de la baie des Cochons, n'avaient plus beaucoup de Cubains qui travaillaient pour eux. Et alors, les Américains étaient bien contents que leurs alliés, et en particulier les Français, se renseignent et qu'ils leur apprennent. Et l'ambassadeur envoie un message disant, en effet, Robert Dugardier, l'ambassadeur de France à Cuba, c'est curieux, on voit des gens qui se promènent la nuit, ils ont de drôles de têtes, etc., ce ne sont pas des Cubains, et cela intéresse énormément les Américains.
Alors, donc là, on aborde le moment essentiel, le 14 octobre, c'est-à-dire le début de la crise.
Exactement.
Que vont faire les États-Unis d'Amérique et que va faire leur jeune président Kennedy?
Eh bien, c'est très intéressant parce que, ce n'est, évidemment, il est informé par son conseiller à la sécurité nationale, McGeorge Bundy, qui a d'ailleurs écrit un des ouvrages essentiels sur la crise de Cuba. Et McGeorge Bundy attend qu'il y ait une interprétation, parce que ces photos qui ont été prises par l'U2, on ne peut pas de but en blanc, c'est des lancements de missiles à tête nucléaire, c'est pas possible. Donc il y a toute une interprétation qui se fait par un service particulier de la CIA. C'est le 15 octobre que cela se fait, et finalement, le patron de ce centre d'interprétation apprend à McGeorge Bundy que c'est extraordinairement dangereux. McGeorge Bundy est tout à fait conscient de ce qu'il va annoncer à Kennedy, et il se présente le mardi matin dans le bureau du cabinet à la Maison-Blanche. John Kennedy est en train de jouer avec sa petite fille Caroline, qui a 5 ans à ce moment-là.
Félicitations, Maurice Weiss, pour ces précisions historiques.
Mais oui, c'est important de voir combien les choses privées se mêlent aux choses publiques. Et évidemment, Kennedy demande d'avoir une réunion immédiate. Cette réunion a lieu en fin de matinée. Il décide à ce moment-là de créer ce qu'on appelle l'ExCom, c'est-à-dire une espèce de cellule de crise qui est destinée à étudier ce qui doit être fait.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
C'est là qu'on entre dans cette semaine absolument décisive. Il faut signaler que pour la première fois, on voit un président décider secrètement d'installer des magnétophones qui permettent d'avoir l'ensemble, c'est un document fascinant qui a émergé plus tard, l'ensemble des conversations de Kennedy avec les siens et l'évolution en particulier de son esprit. Tout ça est utilisé de façon très précieuse dans un petit livre que j'apprécie, de Vincent Touze, qui s'appelle « Comment Kennedy évita la Troisième Guerre mondiale » à propos d'octobre 62, qui a été édité aux éditions André Versailles.
Oui, alors en fait, c'est il y a un ouvrage fondamental sur cette affaire-là, qui est dont l'auteur est Ernest May, qui était le grand professeur d'histoire des relations internationales à Harvard, et qui a écrit un livre remarquable, extraordinaire, où toutes ces conversations sont transcrites avec toute une série d'annotations et qui s'appelle le Kennedy Tapes, les cassettes de Kennedy.
On est là dans les années 90. Alors voilà un homme, Kennedy, qui est face à des responsabilités écrasantes. Dans cette première rencontre, il cite le poète Robert Graves, qui est un grand amateur de corrida. Ce poème est le suivant. « Prompts à la critique, les aficionados remplissent les vastes arènes, pourtant, un seul homme sait de quoi il s'agit, celui qui affrontera le taureau. » Il se voit lui-même dans cette situation un peu machiste de la situation du torero.
Ce qui est très intéressant en lisant la transcription des enregistrements de cette cellule de crise...
Le livre n'a pas été traduit en français.
Ah non.
Pour ça que la traduction de Gudon Touze est très précieuse.
Ce qui est très intéressant, c'est de voir combien les positions des uns et des autres évoluent tout au long de la crise. C'est d'ailleurs pas toujours les mêmes personnes qui sont là. Kennedy n'est pas toujours présent pour une raison très simple, c'est que le secret doit être absolument gardé. On l'a vu en commençant cette émission. Et à certains moments, Kennedy est obligé d'aller aider certains candidats démocrates parce qu'on arrive aux midterms, qui vont les élections d'un mi-mandat qui vont avoir lieu en novembre. Et par conséquent, à certains moments, volontairement, il s'absente et il laisse ses conseillers discuter sur la meilleure formule.
On entend aussi, d'ailleurs, les discussions des conseillers qui parfois sont très critiques à l'égard du président.
Oui, sont très critiques, en particulier les chefs d'état-major.
Alors en effet, on voit, c'est la question d'une prise de décision dans un moment essentiel, avec cette dialectique constante dans les choses nucléaires entre la nécessité du secret, vous en parliez à l'instant, Maurice Weiss, et à certains moments, l'obligation d'afficher ce qu'on fera si l'autre fait ceci ou cela.
Oui, exactement. Une chose extraordinaire, c'est que, bien entendu, on ne sait pas ce qui a présidé à la décision de Khrouchtchev, on ne sait pas exactement ce qui se passe à Cuba, il y a une ignorance telle que du côté soviétique comme du côté américain, on est amené à décider dans le brouillard. Et je voudrais dire un mot concernant ces discussions au sein de l'ExCom, de la cellule de crise. Où tout se joue, c'est-à-dire que la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on peut très bien ne rien faire? On peut très bien laisser aller. Et à ce moment-là, c'est une nouvelle perte de crédibilité pour Kennedy. On peut aller, au contraire, jusqu'à l'invasion et le bombardement de Cuba. Mais Un des dangers de cette affaire-là, c'est que si on décide de bombarder certains sites de lancement...
Et d'envahir l'île au maximum.
On n'est pas sûr qu'il n'y aura pas, d'un côté ou de l'autre, un autre site de missiles qui ne réagira pas. Et puis, par conséquent...
La question de Berlin aussi.
Voilà. Et il y a le point d'interrogation de savoir ce que ferait Khrouchtchev. Par conséquent, les solutions sont très nombreuses et elles vont d'un extrême à l'autre. Autant dire que les militaires américains sont les plus radicaux. Ils sont partisans des solutions les plus radicales, en particulier bombardement et invasion de l'île. Et Kennedy passe vraiment un mauvais quart d'heure à certains moments avec les chefs, que ce soit Maxwell Taylor, Curtis LeMay.
LeMay est devenu le modèle du général un peu fou dans le Docteur Folamour,
voilà,
de Stanley Kubrick.
Exactement. Et donc.
Et à côté de ça, ça, ce sont les faucons. On voit assez bien les faucons se définir, mais d'ailleurs progressivement souvent. Et en face, les colombes où émergent des personnalités remarquables.
C'est d'ailleurs à ce moment-là que.
Robert McNamara jouait un rôle fondamental, le secrétaire d'État de la Défense.
C'est à ce moment-là que les termes faucons et colombes naissent.
C'est pour ça que je les emploie, Maurice Weiss.
Voilà. McNamara, qui par la suite va être l'homme du bombardement sur le Vietnam, joue un rôle d'apaisement, mais les chefs militaires sont très durs et ils rudoient à certains moments Kennedy. Et il faut bien, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien voir qu'il y a une différence de génération. Kennedy a 45 ans, les chefs de l'armée, comme Maxwell Taylor, sont des hommes qui ont largement passé à la soixantaine. Ce sont des gens qui ont une expérience militaire, qui sont quelquefois des héros. C'est le cas de Maxwell Taylor, qui a été le premier général américain à être parachuté sur le sol de France. Et par conséquent, ils ont un prestige et une force qui, évidemment, impressionne Kennedy. Et à un certain moment, en effet, c'est le cas de LeMay, je crois, qui dit à Kennedy... décidément, président, Mr. President, vous êtes dans une très mauvaise passe. Kennedy, on le voit d'après l'enregistrement, encaisse le coup et dit quoi, qu'est-ce que vous avez dit? Et LeMay reprend.
Répète.
Vous êtes dans une très mauvaise passe. En effet, Kennedy va tenir bon, c'est-à-dire qu'il va tenir bon pour la solution qui sera la moins radicale, la plus modérée, qui consiste à établir une quarantaine autour de l'île de Cuba.
Il faut remarquer que Kennedy aimait beaucoup l'histoire, mon cher collègue, en particulier qui venait de lire le livre de Barbara Tuchman, Guns of August, traduit en français par Août 14, qui est l'histoire de l'entrée de cette sorte de folie qui a entraîné l'Europe dans la Grande Guerre. Il y a des précédents qui passent constamment dans ces conversations, ainsi retranscrites, allusion à Munich, allusion à Pearl Harbor. Est-ce que nous allons faire, nous, ce que les Japonais nous ont fait en bombardant, sans motif direct, des sites d'un pays étranger?
Oui, l'histoire est omniprésente dans ces délibérations, et du côté des chefs militaires comme du côté de Kennedy, bien sûr.
Parmi les civils aussi, il y a des faucons. Je pense à l'ancien secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères de Eisenhower, Dean Acheson, qui est d'une violence... stupéfiante quand on la relit après coup.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs en partie pour cela que c'est lui que Kennedy envoie expliquer au général de Gaulle ce qui va se passer et la décision prise par Kennedy.
On va le voir, mais pour l'heure, il faut considérer la manière dont finalement cette décision est prise. Et le chef est le chef, vraiment. Il a beaucoup écouté, il a beaucoup réfléchi, il a évolué. Il a entendu son frère Robert Kennedy, qui est aussi un faucon au moins au début.
Tout à fait.
Même si après, il a changé d'avis.
Oui.
Et c'est ainsi que progressivement, il arrive au choix du blocus, qui est une solution qui va permettre à Khrouchtchev de sauver la face. Et on sait que dans ce domaine, c'est essentiel. Et c'est son fameux discours du 22 octobre 1962. Nous allons en écouter un tout petit morceau. Et ensuite une traduction par Jean-Pierre Biondi dans Interactualité le 23 octobre 1962. Personne, au moment où il prend la parole, ne sait vraiment ce qu'il va dire. Cet homme seul, dans les mains duquel le sort de l'humanité finalement repose.
Acting therefore in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere and under the authority entrusted to me by the Constitution, as endorsed by the resolution of the Congress,
I have directed that the following initial step be taken immediately.
C'est à dessein que nous vous avons fait entendre cette phrase en anglais du président Kennedy. C'est en effet l'annonce de la première des sept mesures décidées cette nuit. Jean-Pierre Biondi, quelles sont ces sept mesures?
Premièrement, un étroit embargo sur tout équipement militaire offensif vers Cuba. Tout navire, quel qu'il soit et provenant de n'importe quel pays ou port, devra faire demi-tour s'il contient des armes offensives. Si besoin est, l'embargo sera étendu à d'autres types de navires. Deuxièmement, une surveillance particulière et permanente de Cuba. Si les préparatifs militaires cubains devaient se poursuivre, de nouvelles mesures seraient prises, annonce Washington. Troisièmement, les États-Unis considèrent tout lancement d'un engin nucléaire depuis Cuba contre une quelconque nation du continent américain comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, exigeant une riposte directe contre le territoire soviétique même. Quatrièmement, le renforcement de la base américaine à Cuba de Guantanamo et l'évacuation des familles du personnel militaire. Cinquièmement, la convocation du comité consultatif de l'organisme des États américains pour appuyer toute action. Sixièmement, la demande de réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour obtenir le démantèlement des installations militaires de Cuba. Enfin, septièmement, cette série de mesures s'achève par un appel à M. Khrouchtchev, lui demandant d'arrêter son soutien militaire à Cuba et de mettre ainsi fin, dit Washington, à un élément considérable de tension pour la paix du monde.
Ce démantèlement, de fait, va avoir lieu, et cela apparaît comme un recul de Khrouchtchev, d'autant plus que cette monnaie d'échange qu'a constitué le retrait des fusées américaines de Turquie reste encore officieuse, sinon cachée, sur le moment même.
Oui. Il y a deux choses à prendre en considération. D'abord, le fait que si Khrouchtchev accepte de reculer, il recule, mais en obtenant tout de même quelque chose de très important. Il obtient de la part des Américains l'engagement de ne plus tenter d'envahir Cuba. Et ça, c'était au fond ce qu'il avait dans l'idée en installant des fusées à Cuba. Et par conséquent, on ne peut pas dire que ce soit un échec de Khrouchtchev, c'est un succès dans la défense de Cuba. Alors, bien sûr, les Cubains sont furieux quand ils apprendront par la suite que les Soviétiques vont démanteler les sites de fusées et les rembarquer, parce qu'ils n'auront pas été tenus au courant, parce qu'ils voudraient garder ces fusées à Cuba. N'empêche que les Américains ont été obligés de s'engager à quelque chose qui n'était pas au fond leur politique. Leur politique, c'était de se débarrasser de Fidel Castro. Or là, ils signent un papier, enfin ils s'engagent dans une voie qui consiste à maintenir Fidel Castro au pouvoir. Et on a vu combien Fidel Castro était resté au pouvoir pendant des dizaines d'années après.
Malgré différentes tentatives d'assassinat, voilà. Ça c'est une autre histoire. On voit bien dans ces questions nucléaires combien il est nécessaire de permettre à l'adversaire de sauver la face. Et au fond, les plus sages des Américains en ont eu conscience en face de Khrouchtchev. Il fallait qu'ils puissent dire aux siens qu'ils n'étaient pas complètement défaits, Maurice Weiss.
Oui, 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 tout à fait. Le point important, c'était de permettre à Khrouchtchev de reculer sur un point qui était l'avancement des transports soviétiques vers l'île de Cuba et de ne pas essayer de briser la quarantaine, le blocus que les Américains avaient installé. À un moment donné, en effet, on peut se poser la question de savoir si l'ordre qui va être donné au cargo soviétique consiste à forcer le blocus ou, au contraire, à s'arrêter. Et finalement, il s'arrête.
Et retrait de la présence soviétique à Cuba. C'est évidemment l'occasion d'une puissante réflexion dans tous les pays occidentaux sur la guerre nucléaire. Voilà pour la première fois, dans la réalité des choses, le moment où on a frôlé le drame, le cataclysme. Il y a un grand analyste parmi d'autres, le général Beaufre et d'autres de l'époque, qui est Raymond Aron. Et je crois qu'il est bon d'entendre sa voix. Et vous nous direz après, Maurice Weiss, si cette interprétation qu'il nous propose vous paraît bienvenue.
La diplomatie stratégie de dissuasion est devenue quelque chose de fondamentalement nouveau. Ça ne ressemble plus à la conduite des armées. Et ça n'exige pas seulement une compétence militaire technique, cela exige une espèce de compréhension psychopolitique du jeu entre des volontés, volontés armées de moyens de destruction considérables. Il y a une autre raison très simple, c'est que l'avenir de l'humanité, l'avenir de nos sociétés, l'avenir de nos enfants dépend de l'absence d'une guerre atomique ou thermonucléaire. Les guerres traditionnelles, on les laissait aux professionnels, aux spécialistes. Une guerre atomique serait une guerre qui engloutirait des sociétés entières. Il est donc normal que, pour employer une expression horrible, nous nous sentions tous concernés. Donc les deux raisons, ce sont les dimensions de ce que serait la catastrophe thermonucléaire d'une guerre totale, et d'autre part le fait que l'emploi diplomatique d'armes que l'on ne veut pas employer militairement est un jeu que les civils peuvent comprendre aussi bien que les militaires, parce que ce n'est pas le jeu traditionnel de la conduite des armées, c'est la compréhension d'un duel de volonté à coup de menaces que l'on n'exécute pas et à coup de messages qui transmettent à la fois la résolution d'agir dans certaines circonstances et le consentement à ne pas agir si l'autre s'abstient également.
Jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a eu des armes nouvelles, on les a essayées. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, l'homme reculera devant cette menace extrême ?
Si le danger n'existait pas, la dissuasion serait impossible. Pour que l'on puisse dissuader l'autre en le menaçant, il faut que la mise à exécution de la menace ne soit pas impossible. Il ne faut pas s'enfermer soi-même dans l'alternative du tout ou rien, de la paix ou de la catastrophe totale. Et c'est pourquoi il faut envisager d'avoir une conduite raisonnable ou rationnelle, même d'une guerre atomique. Cela dit, je pense que dans les prochaines années, la probabilité est que nous évitions la Grande Guerre, ce qui ne signifie pas que nous évitons toutes les formes de la violence, puisque aujourd'hui même, à la surface du globe, il y a un certain nombre de guerres, mais ce sont des guerres qui se livrent au-dessous du niveau atomique, comme le dit le général Beaufre. Peut-être qu'il y a deux victimes des armes atomiques, l'une est la Grande Guerre et l'autre la vraie paix. C'est-à-dire qu'il n'y a ni une paix de type traditionnel, ni une guerre de type traditionnel, mais quelque chose d'autre que nous sommes en train de vivre et que nous découvrons en tâtonnant.
On voit bien au fond que le paradoxe de cette nouvelle situation de diplomatie nucléaire, c'est qu'on doit envisager une guerre nucléaire pour préserver la crédibilité d'en empêcher une.
Oui, c'est tout le principe de la dissuasion. C'est-à-dire que depuis que l'arme atomique a été inventée et d'ailleurs utilisée en 1945, la question s'est posée de savoir si elle était une arme d'emploi ou autrement. En réalité, elle est une arme de non-emploi. Et les Soviétiques et les Américains, qui sont les deux superpuissances qui ont le plus de moyens sur le plan atomique et nucléaire, ont vite compris que leur intérêt commun était la coexistence pacifique et non pas la confrontation cataclysmique. Et c'est un point essentiel de bien voir que la crise de Cuba est en quelque sorte une espèce d'illustration, d'épreuve par le feu de ce qu'est la dissuasion.
Par le feu qui, heureusement, n'est pas tombé.
Par le feu qui n'est pas tombé. On est allé jusqu'au bord du gouffre et Kennedy et Khrouchtchev ont compris que leur intérêt commun était de s'entendre et non pas de se confronter.
D'ailleurs, Kennedy a dit à ce moment-là, à propos des faucons, si je les écoute, aucun d'entre nous ne restera vivant pour dire qu'on s'est trompé.
Voilà, exactement. Et la conséquence de cela, c'est qu'on va passer ainsi de la coexistence pacifique à la détente. Et c'est un moment essentiel de la guerre froide.
Ce qui est notable, c'est qu'on a toujours besoin d'une part d'irrationnel, parce que sinon, comment menacer de la frappe nucléaire sans cela, de passion, à l'intérieur d'un raisonnement qui doit demeurer glacé, froid.
Oui, l'important et le plus grave dans tout cela, c'est le secret. C'est ce qu'on on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce que l'autre va décider de faire. Et c'est bien pour cela que, à la suite de la crise de Cuba, les Américains et les Soviétiques vont installer le fameux téléphone rouge, c'est-à-dire un télétype entre Moscou et Washington, pour qu'ils puissent avoir des communications ultra-secrètes destinées à s'informer mutuellement de ce qu'ils font ou ne font pas. Il ne s'agit pas de leur dévoiler quoi que ce soit, mais de maintenir un fil. D'ailleurs, actuellement encore, pendant la crise ukrainienne, on sait que les militaires américains ont des contacts avec les militaires russes à propos de ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. Il est absolument essentiel de maintenir le fil.
Ce téléphone rouge date du 30 août 1963 et dans la diplomatie nucléaire, c'est un moment essentiel. Je voudrais qu'on dise un mot maintenant de l'effet de cette crise, résolue de la façon que vous dites, sur les puissances moyennes et notamment les puissances nucléaires. Vous avez traité de ce sujet dans un livre collectif que vous avez dirigé, L'Europe et la crise de Cuba, en parlant du cas français. Je vais vous faire entendre ce que disait le général de Gaulle dans une conférence de presse de janvier 1963 pour approuver les Américains, vous allez voir, et en même temps pour expliquer pourquoi la situation telle qu'elle s'est développée justifie d'autant plus qu'un pays comme la France dispose de sa propre bombe atomique.
On vient de le voir d'ailleurs dans l'affaire de Cuba. Les Américains se trouvant exposés à une attaque atomique directe à partir des Caraïbes, ont agi de manière à se débarrasser de la menace. Et s'il avait fallu à la briser, sans qu'il parût, ni à eux, ni d'ailleurs à personne, que la partie se jouerait nécessairement en Europe. Et les moyens qu'ils ont décidé d'utiliser pour faire face à une attaque directe, soit qu'elle vînt de Cuba, soit qu'elle fût combinée avec une autre venant d'ailleurs, ces moyens-là n'étaient évidemment pas affectés à la défense de l'Europe, même si l'Europe avait été attaquée. Et puis par-dessus tout, il y a ce fait que la dissuasion est maintenant du côté soviétique et du côté américain. Ce qui veut dire qu'en cas de guerre atomique générale, il y aurait fatalement des destructions épouvantables et peut-être mortelles dans l'un et dans l'autre pays. Dans ces conditions, personne ne peut dire dans le monde, personne dans le monde, et en particulier personne en Amérique, ne peut dire si, où, quand, comment, dans quelle mesure les armements nucléaires américains seraient employés à défendre l'Europe. Naturellement, les armements nucléaires américains demeurent la garantie essentielle de la paix mondiale. Et ce fait, ainsi que la détermination avec laquelle le président Kennedy s'en est servi, sont eux aussi apparus en pleine lumière à propos de l'affaire de Cuba. Mais il reste que la puissance nucléaire américaine ne répond pas nécessairement et immédiatement à toutes les éventualités concernant l'Europe et la France. Ainsi, les principes et les conditions, les circonstances nous ont amenés, nous ont déterminés à nous doter nous-mêmes d'une force atomique qui nous soit propre.
CQFD, Maurice Weiss de Gaulle, oui, explique le choix français dans le domaine atomique et annonce au fond déjà la sortie de l'OTAN trois ans plus tard.
La crise de Cuba a été l'objet d'une profonde réflexion du général de Gaulle. D'abord, il était convaincu en voyant ce qui se passait qu'il n'y aurait pas de guerre. Ensuite, il a constaté qu'en réalité, les deux grands adversaires s'étaient entendus entre eux sans consulter leurs alliés. Et en particulier, lorsque Acheson est venu voir le général de Gaulle, de Gaulle lui a posé la question « Est-ce que vous êtes venu pour me consulter ou vous êtes venu pour m'informer ?» Et comme c'est évidemment une simple information qui a été faite, de Gaulle en déduit des conclusions pour l'OTAN, pour l'Alliance Atlantique. L'Alliance Atlantique, en fait, est un instrument au service des Américains. Et dans ces conditions, la France, d'une part, doit avoir sa propre force nucléaire, d'autre part, doit sortir de l'intégration militaire de l'OTAN.
Voilà, Maurice Vasse, ce que l'on peut dire sur cette crise des fusées. De façon implicite, évidemment, la pensée se porte vers une comparaison avec aujourd'hui. Cette semaine, je vois sur 5 colonnes le journal Le Monde titré « Ukraine, les doctrines nucléaires à l'épreuve ». Alors, je consulte votre sagacité, votre compétence. Ressemblance, différence avec aujourd'hui, évolution ?
C'est extrêmement intéressant de constater l'évolution qui s'est faite, puisque l'important, c'est que, au fond, sous le règne du nucléaire, on considère, comme l'a dit à un moment Raymond Aron, que la guerre est impossible. La guerre est impossible parce que s'il y a guerre, tout est détruit. Et comme le disait Kennedy, nous mourrons tous. Et De Gaulle l'avait dit également. Et cependant, comme on l'a observé, le fait qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale nucléaire n'a pas empêché la multiplication des guerres
infranucléaires.
Et par conséquent, on était resté jusqu'en 2022 sur l'idée, au fond, que grâce au nucléaire, on pouvait éviter toute confrontation mettant en cause les armements nucléaires.
Le nucléaire inemployé, demeurant inemployé.
Absolument. Or, les menaces voilées du président Poutine à propos de la guerre en Ukraine ont fait ressurgir un certain nombre de dangers, d'inquiétudes, du fait que les grands pays nucléaires, c'est-à-dire les 5 grands, États-Unis, Union soviétique, Royaume-Uni, France et Chine, ont pris des engagements extrêmement précis lors de la signature du TNP en 1968, traité de non-prolifération nucléaire. Il s'agissait d'empêcher d'autres pays que ces 5-là d'acquérir le nucléaire, des armes nucléaires. Ce qui n'était pas tout à fait le cas, puisque, on le sait, plusieurs pays qui ne faisaient pas partie des 5 ont acquis des forces nucléaires et sont à la tête de forces nucléaires actuellement.
L'autre donnée, c'est la miniaturisation possible des bombes nucléaires.
Oui, les armes nucléaires tactiques. Mais surtout, en 1995, lors du renouvellement du TNP, du traité de non-prolifération nucléaire, les pays signataires, et alors là, la France et la Chine en ont fait partie, se sont engagés de deux façons possibles. C'est-à-dire, premièrement, quelque chose de négatif. Si jamais un pays qui n'était pas nucléaire était menacé par un pays nucléaire, eh bien, les autres pays devaient aller à sa défense. Et d'autre part, il y avait également des aspects positif dans cela, c'est-à-dire que ces pays s'engageaient à ne pas vendre, transférer à des pays non nucléaires des technologies nucléaires. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de constater un privilège de certains grands pays sur le plan nucléaire pour empêcher les autres d'accéder au seuil nucléaire. Et c'est en particulier le cas de ce qui se passe actuellement avec l'Iran et le fait que l'AIEA, c'est-à-dire l'agence de Vienne, l'agence atomique de Vienne, essaye d'obtenir de l'Iran qu'elle n'aille pas au-delà d'un certain seuil d'enrichissement nucléaire, alors qu'elle ne fait pas partie, évidemment, des pays qui ont été amené à faire partie de ce fameux TNP.
Sur quoi Poutine nous annonce qu'il peut songer à utiliser le nucléaire au profit de sa guerre actuelle, ce qui change la donne et ce qui explique d'ailleurs peut-être certaines hésitations américaines qu'exprime le président Biden ces jours-ci.
Il agite l'arme nucléaire, il agite des menaces, mais d'une façon d'abord voilée et ensuite qui, si on se rapporte à ce qui se passait en 1962, est complètement insensé parce que en 1962, à la fois Kennedy et Khrouchtchev avaient parfaitement conscience de ce qui se passerait s'ils décidaient la confrontation. Et là, on a vraiment l'impression de menaces qui ne sont pas claires, etc., mais qui amènent à se poser des questions. Vous savez qu'à certains moments, on disait qu'il y avait dissuasion entre les forts, entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il y avait des dissuasions entre le faible et le fort.
Ça, c'était la doctrine française du général Beaufre et
exactement.
D'autres, général Poirier.
Et là, on a aussi parlé de la dissuasion du fort au fou, c'est-à-dire un pays qui serait dominé et qui serait dirigé par un fou et qui déciderait une guerre nucléaire.
Faut l'amour.
Voilà, on peut espérer qu'il n'en sera rien, mais il est certain que l'expérience ukrainienne fait irrésistiblement penser à ce qui serait passé si Kennedy et Khrouchtchev n'avaient pas été assez prudents, chacun de leur côté, et n'avaient pas voulu faire triompher la paix plutôt que la guerre.
Ce qui explique probablement pourquoi le caractère très différent de la conjoncture actuelle, l'utilisation par Poutine de la menace nucléaire, non pas dans la confrontation des blocs, mais pour servir une guerre d'invasion, cela explique probablement pourquoi Joe Biden et les siens donnent le sentiment actuellement d'un peu d'hésitation. Nous réagirons si, mais on ne dit pas comment.
Oui, l'un des éléments essentiels dans les questions nucléaires et dans la dissuasion, c'est l'incertitude, c'est le brouillard de la guerre. On ne doit pas savoir, de l'autre côté, ce qu'on est en train de préparer.
Et en même temps, on affiche ce qu'on fera si l'autre fait telle chose pour l'empêcher de le faire.
Exactement. C'est beaucoup une question de propagande, de bluff, etc. On est dans un jeu de poker et non pas d'échec.
Très bien. Et jeu de go, peut-être aussi.
Oui.
Merci beaucoup, Maurice Weiss, de nous avoir éclairé sur les ressemblances et les différences entre la crise de Cuba en 62 et ce qui peut paraître risquer d'arriver aujourd'hui dans l'affaire ukrainienne. Je rends hommage à votre manuel, plusieurs fois réédité, pratiquement tous les deux ans, qui s'appelle « Les relations internationales depuis 1945 » chez Armand Collin. La dernière édition date de quand ?
De mars 2021.
Et la prochaine ?
Mars 2023.
Vous avez du pain sur la planche pour parler de tout ce qui est en train d'arriver. J'ai signalé en passant aussi que vous avez dirigé un ouvrage, toujours chez Armand Collin, en 1993, sur l'Europe et la crise de Cuba, où vous parlez notamment des relations entre De Gaulle et Kennedy, entre la France et les États-Unis à ce moment-là. J'ai signalé aussi comme très utile, notamment parce qu'il traduit beaucoup des enregistrements qui avaient été faits subrepticement par Kennedy, le petit livre de Vincent Touze qui s'appelle « Comment Kennedy évita la Troisième Guerre mondiale, octobre 1962, journal de la crise des missiles ». On suit effectivement de très près le déroulement des événements, des incertitudes et de la prise de décision. C'est une édition Archipoche, André Versailles, 2022. Vous trouverez une bibliographie plus complète, elle est très très vaste, notamment en américain, mais beaucoup de ces livres ont été traduits. Vous trouverez une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, vous le savez, et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission pour juger après coup de la sagacité des propos que mon invité, que je remercie, Maurice Weiss, vient de tenir. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et réalisée par Yaël Mandelbaum, avec la prise de son Christophe Papon, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel qui sont sans prix pour cette émission, Clary Monac. Thank you.